Bonsoir, comment allez-vous? Nous avons reçu au bureau un livre dont je ne voulais pas vous parler tant il est honteusement pompé sur les petits bateaux. Seulement voilà, comme il nous ressemble, il est très bien ce bouquin. Et puis finalement, si nous avons inspiré son auteur, tant mieux, c'est une fierté. Et si c'est le hasard, tant mieux aussi, nous sommes faits pour nous entendre. Les réponses y sont plus courtes que les nôtres et le ton est très sympa. Ce livre s'appelle « Max Bird, désingue les idées reçues » édité chez First. Le Max Bird était ornithologue au départ. Alors j'ai une question, Bird c'est un pseudo ou bien ? Autre hasard ou synchronicité, en ouvrant au hasard, je suis tombée sur la question « Est-ce vrai qu'il ne faut pas toucher un oisillon au risque que sa mère ne l'abandonne ?» Eh bien c'est faux, on peut très bien s'occuper d'un oisillon et le repositionner dans le nid. Comme nous, il passe du coq à l'âne, ce qui provoque une sérendipité, vous savez, la fonction de trouver ce que l'on ne cherche pas. Donc, à la page de l'oisillon, nous avons une question sur la choucroute. Quel est le rapport? Aucun, vous dis-je. Et une sur le lapin. Est-ce un rongeur? Non, c'est un lagomorphe. La différence? Une histoire de dents et de zizi. Le rongeur, lui, il a un os. Oui, dans le zizi. Oh, mais ma parole, il y a un os. Ce n'est pas du Audiard, c'est du castor. Tiens, castor, c'est le nom que Sartre donnait à Simone de Beauvoir. Et pas l'inverse.
Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, on a vu des barrages de castor et j'aimerais bien savoir à quoi ça sert.
Je m'appelle Nina, j'ai 6 ans et demi. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça arrive aux castors quand ils ne font pas de barrage.
Bonsoir à tous les deux. Docteur François Moutou, vous connaissez les castors ?
Un petit peu, j'en ai croisé personnellement quelques-uns, dans la Durance. En fait, le castor est un rongeur, c'est même le plus gros rongeur européen, ça peut peser 30 kilos, c'est déjà une jolie bestiole.
Ah, c'est si gros que ça, ah, ça peut être aussi gros qu'un chien ?
Ah ben oui, alors peut-être pas qu'un Saint-Bernard, mais que certains chiens, absolument. Et c'est un animal amphibie, donc il vit un petit peu sur terre, qui est tout à fait capable de nager, avec ses pattes palmées arrière, et puis sa grande queue bien plate que tout le monde connaît. L'eau est importante pour le castor parce que c'est surtout dans l'eau qu'il se déplace. C'est là qu'il fait sa maison. Et sa maison, c'est sa façon de faire sa maison, elle doit avoir l'entrée sous l'eau.
Ah.
Il ne faut pas que quelqu'un d'autre puisse rentrer dans sa maison sans se mouiller. Donc lui, il peut plonger et il rentre après dans sa maison. Et soit il a un terrier, mais c'est la même règle en fait. Le terrier s'ouvre sous l'eau et le terrier dans la berge avec une sortie d'air sur le talus derrière la rivière. Ou bien c'est une hutte qui est posée dans l'eau. Mais toujours avec l'ouverture
sous l'eau. Donc ne peut pas rentrer chez lui qui ne sait pas nager sous l'eau.
Absolument. Or, dans les rivières, ici comme ailleurs, parfois il y a plus d'eau en hiver, moins d'eau en été. Il ne faudrait surtout pas que si l'eau baisse en été parce que il y a plus de neige, il n'a pas plu depuis un certain temps et le nouveau baisse, on arrive à mettre en évidence cet orifice. Donc le castor, il a compris, il met un barrage un peu en aval qui fait que l'eau sera à peu près toujours au même niveau et avec une garantie que le niveau de l'eau sera toujours au-dessus de l'entrée de sa hutte ou de son terrier. Il y a un castor en Amérique un peu différent du castor en Europe et en Asie, mais enfin ils sont vraiment très proches. Et là-bas, on a connu des barrages qui faisaient 200 mètres de long. C'était pas trois brindilles.
Ils travaillaient ensemble ?
Une famille. Donc c'est le papa, la maman et les enfants des deux générations. Et en plus, ils ont sans doute, alors c'est instinctif quand même, hein, c'est pas des plans, ils ont pas des ordinateurs pour dessiner les barrages en trois dimensions avant d'aller les faire. Mais il y a beaucoup d'instinct, mais c'est quand même bien adapté à leurs besoins. Et il semble que quelque chose qui déclenche le réflexe de barrage, c'est le bruit de l'eau qui coule. Et quand il y a une fuite, par exemple, ils vont entendre le bruit de l'eau qui s'échappe et ils vont boucher. Il y a des gens un peu malicieux qui leur ont fait des blagues et qui ont mis des haut-parleurs sur le barrage avec un bruit d'eau qui coulait. Et les pauvres castors ont rebouché sur le haut-parleur des quantités de matériaux. Ils ne voyaient pas d'eau, mais ils l'entendaient. Et donc, ils continuaient à accumuler des branches sur le faux trou du barrage.
Ils mangent quoi ?
Ils mangent des écorces d'arbres qu'ils prélèvent en général sur le mètre qui borde la rivière. Donc, il va rarement au-delà, sauf s'ils trouvent des petits affluents qui permet de nager sans sortir de l'eau, parce que à terre, il se sent pas bien à l'aise. Dans l'eau, il est vraiment tranquille et beaucoup plus sûr de lui.
Mais n'empêche qu'il respire dans l'air.
Absolument.
Il est en apnée sous l'eau.
En apnée, comme nous, sauf qu'il tient plus longtemps. Il abat ses arbres.
D'accord, il pose les écorces.
Il retire les branches, il prend ce qu'il veut, mais plutôt que le porter sur terre et c'est lourd, il trouve une façon de le faire flotter pour l'amener près de sa maison. Et il fait des stocks dans le fond de son plan d'eau en mettant des pierres sur les branches pour avoir à manger, même en hiver, quand il n'y a plus rien qui pousse et qui soit comestible.
Le prochain livre du docteur vétérinaire François Moutou sortira jeudi prochain. Il est édité chez Le Pommier et sera consacré à l'ours, cet animal si grand dont nous savons si peu. Saviez-vous qu'en fait, il y a deux sortes de zéros? Le mathématicien Michael Launay nous expliquera ça. Avant, Loïc Bienassi nous dira ce qu'est exactement le chocolat blanc. Et le docteur en géopolitique Frédéric Ancel nous expliquera comment l'Allemagne a été divisée en deux. En quatre, en fait, comme les cheveux.
Je m'appelle Jeanne, j'ai 10 ans. Et j'aimerais savoir quelle est la différence entre un microbe et une bactérie. Merci, au revoir.
Bonsoir Jeanne, c'est Pascal Cossard qui est professeur à l'Institut Pasteur et secrétaire perpétuel, c'est un joli titre, à l'Académie des sciences. Quelle est la différence entre un microbe et une bactérie, vous demande Jeanne.
Alors Jeanne, une bactérie c'est un microbe, mais les microbes ne sont pas forcément des bactéries. Le mot microbe, ça vient en fait du grec, ça veut dire que on est en train de parler de quelque chose qui est tout petit. Donc ça peut être une bactérie, mais ça peut aussi être un petit parasite, ça peut être une amibe. Donc le mot microbe, c'est un mot général, et dans toute la famille des microbes, il y a des bactéries. Et les bactéries, ce sont des microbes tout petits, mais leur caractéristique, c'est qu'une seule cellule. Toi, tu as plein de cellules. La bactérie, il n'y a qu'une seule cellule. C'est comme une petite poche qui grossit, qui se divise en deux. Et les deux petites sœurs bactéries sont exactement identiques à la maman bactérie. Et puis, ça se multiplie comme ça. Donc, une bactérie, c'est un être vivant. Les microbes, c'est vraiment le mot général qui représente tous les petits organismes vivants, y compris les bactéries.
Merci Pascal Cossard. Question qui est tombée à point avec les rhumes qui commencent à pointer le bout de leur nez. Petit bateau, nous ne demandons pas grand-chose à la Lune, nous demandons à des savants de répondre à vos questions que vous nous laissez sur le 01 56 40 43 57.
J'ai demandé à la Lune et le soleil ne le sait pas. Comme le ciel n'a
J'ai demandé à la Lune, c'était le groupe Indochine.
Les petits bateaux sur France Inter.
Un de mes enfants est né en 1989 et comme cadeau de naissance, au lieu de recevoir un pyjama, j'ai reçu un petit morceau du mur de Berlin qui était tombé cette année-là.
Bonjour, je m'appelle Adèle, j'ai 10 ans. Et je voudrais savoir pourquoi est-ce que pendant un certain temps, l'Allemagne a été séparée en deux. Merci.
Bonsoir Adèle, nous proposons ta question à Frédéric Ancel.
Oui, c'est une très bonne question qui a concerné quand même plusieurs décennies. Hein. L'Allemagne a effectivement été coupée, d'abord dans un premier temps, elle a été découpée en quatre, de 1945 à 1949. Et de 1949 à 1989, donc pendant 50 ans, elle a été coupée effectivement en deux. Alors, l'Allemagne de l'Ouest, ça a été les territoires occupés, contrôlés par les alliés vainqueurs de l'Allemagne nazie en 1945. Donc il y avait les Américains, les Britanniques et les Français, d'une part. Et d'autre part, à l'Est de l'Allemagne, il y avait les Soviétiques. Pourquoi ? Parce que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les alliés occidentaux ont conquis l'Allemagne, enfin l'Ouest de l'Allemagne, tandis que les Soviétiques, évidemment, partaient du RSS et donc refoulaient les armées allemandes pratiquement jusqu'à Berlin. Ensuite, il y a eu plusieurs secteurs d'occupation. Les secteurs britanniques, américains et français à l'Ouest ont fusionné. Et il n'y a donc plus eu qu'une Allemagne de l'Ouest qui est devenue indépendante officiellement en 1949. C'est aussi ce qu'on appelait l'Allemagne fédérale. Et à l'Est, il y a une Allemagne qui est devenue communiste, qui obéissait bien évidemment à Moscou, enfin au bloc communiste, et on l'a appelée l'Allemagne de l'Est, dite aussi l'Allemagne démocratique. Mais le mot démocratique, faut faire attention, hein. C'était la propagande soviétique. Et donc il y a eu ces deux Allemagnes, qui d'ailleurs ne s'aimaient absolument pas. Il y a eu à partir des années 60 un véritable mur à Berlin, le fameux mur de Berlin, qui a été érigé au milieu donc de l'ancienne capitale des Reichs allemands. Et l'Allemagne a de nouveau fusionné après la chute de ce mur, la chute également du bloc communiste, de toute l'URSS, à partir de 1989. Et l'Allemagne est redevenue une au début des années 1990. Aujourd'hui, ça s'appelle tout simplement la République d'Allemagne. Berlin est redevenue capitale, parce que je rappelle que pendant ces 50 ans, la capitale de l'Allemagne de l'Ouest, c'était Bonn. Et non
oui, parce
Berlin.
Que Berlin était en fait complètement encerclé par l'Allemagne de l'Est.
Absolument. Berlin-Ouest, en fait, était une enclave occidentale, donc de l'Allemagne de l'Ouest, en Allemagne de l'Est. Et du coup, il y a eu une réunification. Tous les États européens, d'ailleurs, n'étaient pas très chauds. Hein.
Ah bon ?
La France de François Mitterrand craignait la remontée en puissance de l'Allemagne. Ah oui, vous savez, l'Allemagne, c'est trois guerres en 50 ans. Hein. Ah non, il y a eu des combats diplomatiques assez durs. Bon, aujourd'hui, tout le monde salue, évidemment, l'Allemagne unifiée ou réunifiée. Je rappellerai quand même que François Mauriac, grand écrivain de la deuxième partie du XXe siècle, François Mauriac disait la chose suivante. J'aime tellement l'Allemagne que je suis très heureux qu'il y en ait deux. Alors évidemment, c'est un petit peu ironique, c'est-à-dire que François Mauriac considérait qu'il ne fallait pas que l'Allemagne soit réunifiée et que le fait qu'il y en ait deux, c'était une juste punition après les deux guerres mondiales. Mais c'est une anecdote, une citation assez drôle.
Frédéric Ancel est docteur en géopolitique, il est maître de conférences à Sciences Po. J'ai envie de vous citer ce livre-ci de quelques idées reçues sur le monde contemporain et c'est édité chez Flammarion. Quant au mur de Berlin, il y en a un bon morceau devant la maison de la radio côté RER. On peut le toucher, ça fait quelque chose.
Bonjour, je m'appelle Maxin, j'ai 4 ans et demi et je voudrais savoir comment on fait le chocolat blanc. Merci.
C'est une question pour vous, Loïc Bienassi. Est-ce que le chocolat blanc, c'est du chocolat d'abord ?
Alors, on peut dire que c'est du chocolat dans le sens où il y a du beurre de cacao dedans, mais il n'y a pas la partie sèche du cacao, d'où sa couleur. Et ce qui fait que certains puristes vous diraient non, là, ça ne mérite pas d'être qualifié de chocolat, mais il y a quelque chose qui est extrait du cacao, vraiment. C'est ce beurre, cette huile de cacao.
Et notre petit Maxence voudrait savoir comment on le fait.
Donc, il faut avoir en tête d'abord comment on fait du chocolat. Il y a cet arbre, le cacaoyer, qui produit des fèves de cacao. Et ces fèves, en fait, il y a différentes phases. On les torréfie, c'est-à-dire on les grille d'abord. Ensuite, on les concasse et on obtient une sorte de pâte de cacao. J'abrège un peu. Après, les avoir broyées. Donc, cette pâte de cacao, elle contient à la fois de la matière sèche et à la fois de l'huile. Une fois qu'on presse bien cette pâte de cacao,
d'accord,
on obtient d'un côté de la poudre et de l'autre du beurre ou de l'huile de cacao, c'est-à-dire une matière grasse. On obtient ces deux choses quand
d'accord
on presse. Donc, on va faire différentes qualités de chocolat selon les proportions que l'on choisit entre la pâte de cacao, le beurre de cacao et le sucre.
Après, le sucre, c'est l'homme qui l'apporte.
Ah, tout à fait.
La pâte et l'huile, c'est l'arbre. Voilà. Le sucre, c'est l'homme.
Alors, on peut rajouter aussi des matières grasses végétales. Hein. Il y a des différentes...
En plus.
Là aussi, voilà, exactement. Or, on a, à partir des années 30, je crois que c'est Nestlé qui a choisi d'utiliser justement ces excédents de beurre de cacao pour créer le chocolat blanc. C'est-à-dire que, alors que, je le répète, il y a le sucre, le cacao en matière sèche, et le beurre de cacao, eh bien, ils ont enlevé finalement le cacao matière sèche pour mettre en gros du sucre, d'autres substances et l'huile de cacao.
D'où la couleur blanche.
Exactement.
Si on trempe son doigt dans le beurre et qu'on le goûte, ça a quel goût?
Alors, c'est quelque chose de, justement, qui a cette substance très grasse, évidemment, ça va de soi. C'est pas quelque chose d'aussi amer que le cacao, parce que le principe amer, il est plus dans la partie sèche. Donc, je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui a assez peu de goût, mais je crois que c'est quand même ça qu'il faut, voilà, quelque chose qui n'a pas de saveur très marquée.
Parce que dans notre chocolat blanc, on y rajoute de la vanille, on y rajoute de la noix de coco, souvent.
C'est ça, oui. Et puis, il y a vraiment des chocolats blancs sans ajout de produits qui permettent de le rendre, je ne sais pas, croustillant ou quoi que ce soit. Mais il est vrai que, de toute façon, le chocolat blanc, dans l'absolu, n'a pas énormément de goût.
Que du gras et du sucre, rien de bien bon pour le bonhomme. Loïc Bienassi est historien à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation de l'université François Rabelais de Tours. Et il a écrit « Le repas gastronomique des Français », c'est édité chez Gallimard. Portugal, The Man, Feel It Still sur France Inter où vous écoutez Les Petits Bateaux, l'émission où des enfants posent des questions et où des savants répondent. 0 plus 0 égale la tête au petit bateau.
Je m'appelle Alexandre et j'ai 13 ans et j'aimerais savoir, parce qu'en fait on dit qu'on a inventé le zéro, mais alors qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si on supprimait le zéro des mathématiques ? Merci.
Vous êtes mathématicien, Michael Launay, vous avez écrit le grand roman des maths de la préhistoire à nos jours et c'est édité chez Flammarion.
C'est une question très intéressante, Alexandre. Déjà, il faut voir qu'il y a deux zéros en mathématiques.
Ah bon ?
Il y a le zéro en tant que chiffre, c'est-à-dire le zéro qui sert de symbole pour écrire les autres nombres. Par exemple, si j'écris le nombre 103, il y a un zéro au milieu. Et puis après, il y a le zéro en tant que nombre, c'est-à-dire le zéro qu'on écrit tout seul pour désigner qu'il n'y a pas d'objet. On dit il y a zéro objet. Alors le zéro en tant que chiffre, c'est le premier qui apparaît. Ce premier zéro, il apparaît chez les Babyloniens, il y a environ trois siècles avant notre ère. Et pendant très longtemps, avant l'invention de ce zéro, les Babyloniens ont fait sans le zéro, c'est-à-dire que quand ils écrivaient un nombre, quand à un moment donné il y avait absence d'un chiffre, eh bien ils ne le notaient pas tout simplement. C'est-à-dire par exemple, nous ce qu'on note 103, eh bien ça s'écrivait simplement avec un 1 et un 3.
Et un vide entre les deux, où ils étaient collés.
Et un vide. Alors évidemment, effectivement, pour savoir que c'est 103 et que c'est pas 13, il faut qu'il y ait un petit espace entre les deux pour le dire. Alors soit ils l'écrivaient en mettant des colonnes, et donc quand il y avait une colonne dans laquelle il n'y avait rien, ça signifiait zéro.
Ah.
Mais les Babyloniens, ils avaient tendance à écrire aussi de manière assez serrée. C'est-à-dire que si on regarde les tablettes d'argile, ils écrivaient sur des tablettes d'argile avec un calame. Et donc, ils écrivaient de manière très, très, très serrée. Les symboles étaient tout petits. Et donc, très rapidement, ça pouvait devenir ambigu. Et puis, c'est encore plus ambigu, par exemple, si le zéro, il est à la fin du nombre. C'est-à-dire que si j'écris 160, le 1 et le 6 sont collés. Et puis, comment on sait qu'après, il y a un espace vide derrière, puisqu'il n'y a rien d'autre derrière le zéro final de 160.
Vous savez à quoi ça me fait penser ce que vous êtes en train de dire, Michael Honnet? Quand on donne son numéro de téléphone, quelquefois, on dit 60 et 13. Mais on fait bien attention à dire c'est le 06 60 13 2204 et pas 73. Sinon, à l'oral, ça prête à confusion.
Effectivement, à l'oral, ça prête à confusion. Et alors, à l'écriture, pour les Babyloniens aussi, ça prête à confusion. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs nombres qui, d'une certaine manière, du fait de cette absence de zéro, s'écrivaient de la même manière. Et donc, il fallait trouver des astuces pour essayer de lever ces ambiguïtés. À partir du moment où ils inventent le chiffre zéro, cette ambiguïté n'est plus là. Et donc, le zéro, évidemment, est très important pour ça. Et puis après, il y a le deuxième zéro, qui est le nombre zéro, donc, qui désigne l'absence. Et ça, c'est inventé par les Indiens.
D'Inde ou d'Amérique ?
Par les Indiens d'Inde, pardon, oui. C'est au début de notre ère. C'est difficile de dater précisément l'apparition parce qu'ils ont une grande tradition orale. Donc, on ne sait pas à partir de quel moment est-ce que vraiment ils commencent à le développer. Mais c'est les premiers justement à dire qu'il y a un nombre zéro. Et ce zéro-là, par contre, il est vraiment beaucoup plus important. Par exemple, si on regarde dans un calendrier, eh bien, il faut savoir que les scientifiques et les historiens utilisent un calendrier différent parce que pour les scientifiques, il y a un an zéro. Alors que pour les historiens, il n'y en a pas forcément dans plusieurs calendriers. Donc, quand on a l'an 1, l'an qui est avant l'an 1, eh bien, pour les scientifiques, on dit que c'est l'an 0, alors que pour les historiens, c'est l'an moins 1. Et on saute l'an 0. Et ça, ça pose différents problèmes. Par exemple, si on veut connaître l'écart entre l'année 2002 et l'année 2017, on va faire une soustraction. On va faire 2017 moins 2002 et on va trouver 15. Donc, il y a 15 ans d'écart entre 2002 et 2017. En revanche, si on veut calculer l'écart entre l'an moins 10 et l'an 20, par exemple, si on fait une soustraction, on trouve 30. Mais on trouve 30 à condition qu'il y ait un an zéro. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'an zéro, eh bien, dans un calendrier classique, entre l'an moins 10 et l'an 20, il s'est passé seulement 29 années. Et ça, en mathématiques, on n'aime pas ça, parce que ça fait une exception, ça fait une règle à part. Et en mathématiques, on aime bien qu'il y ait des règles générales, des choses qui marchent bien, qui marchent toujours, et qui permettent d'avoir des règles absolues. On n'a pas besoin de faire des cas particuliers. Et donc, pour cela, le zéro est indispensable, parce que si on oublie des nombres, que ce soit le zéro ou un autre nombre, eh bien, on a des cas particuliers, on a des règles moins générales, et donc c'est moins élégant, et on aime beaucoup l'élégance, et on aime bien que tout soit bien cohérent en mathématiques.
Oui, il faut que tout ça, ça soit comme un œuf, quoi. Quelle que soit la forme, il faut qu'il y ait une harmonie, il faut que ça soit bouclé, quoi.
Voilà, pour que les propriétés mathématiques soient belles, soient cohérentes entre elles, eh bien, tous les nombres sont indispensables et l'édifice mathématique est fait de façon à ce que ça fonctionne bien.
Michael Delaunay, mathématicien, a créé la chaîne de vulgarisation mathématique qui s'appelle MicMath. Sur YouTube, vous trouverez bien entendu les références de cette chaîne sur le site des Petits Bateaux que je vous recommande chaudement. Vous savez que vous pouvez également podcaster cette émission. Marjorie Devoucoux, Eliane Girard, Noël Bréham, Jean-Baptiste Audibert, Guillaume Roux, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30 et je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulle du Mont-Petit-Loup.